vont sur la montagne. Vous savez d'ailleurs que le sermon sur la montagne, le nom sermon sur la montagne a été donné par Augustin au IVe siècle. Aujourd'hui, on parlerait peut-être plutôt de séminaire. Séminaire sur la colline, et non pas sur la montagne, c'est un petit peu exagéré la montagne. C'est une colline sur laquelle Jésus enseigne son sermon ou son séminaire sur la colline, destiné à tous les apprentis disciples et puis à tous ceux qui veulent l'écouter. Et ce matin, je vous propose un passage bien connu qui est celui de la poutre et de la paille. Une parole où Jésus nous demande tout simplement, alors j'aime beaucoup cette image là que vous avez sur l'écran, de ce type qui se balade avec une énorme poutre dans l'œil et qui semble ne pas s'en apercevoir. Mais nous allons en parler. Alors, le titre, ça pourrait être « Ne jugez pas » et on pourrait s'arrêter là, il ne faut pas juger. Mais je pense que ce passage a besoin de commentaires pour que nous puissions nous l'approprier plus particulièrement. Alors, quand on parle de juger, il faudrait peut-être définir le mot « juger » car le mot « juger » possède plusieurs significations. On a tous le souvenir d'une conversation où quelqu'un vous a coupé la parole en disant « Ah là, je t'arrête, mais tu juges ». Et vous n'aviez pas l'impression d'avoir jugé, d'avoir fait quelque chose de mal. Et vous dites « Non, non, je ne juge pas, si tu juges. Non, je ne juge pas, si tu juges. Non, je ne juge pas, je constate simplement. Si, si, tu juges. Non, si, non, si. » Et la victoire revenant au plus tenace des adversaires. Il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, il y avait une école de philosophie qu'on a appelée les sceptiques. Et cette école affirmait en effet que dès que l'on émettait la moindre opinion, le moindre jugement sur quelque chose, on dénaturait la vérité. Et donc, dans cette école de philosophie, il fallait s'abstenir de toute espèce de jugement. Jésus ne faisait pas partie de cette école des sceptiques. Et quand il nous dit de ne pas juger, il ne nous demande pas de mettre notre sens critique de côté. Il n'exige pas de nous de nous abstenir de tout discernement. Au contraire, même, comme il parle du royaume, il nous demande dans son royaume de faire preuve du discernement, de discernement. Quand au chapitre 6, il nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu, il faut savoir distinguer entre ses priorités pour chercher premièrement le royaume de Dieu. Et un peu plus tard dans son sermon, toujours dans son sermon sur la montagne, au chapitre 7, il nous demande de nous garder des faux prophètes. Il faut faire preuve de discernement pour évaluer l'enseignement des prophètes susmentionnés. Donc, Jésus ne nous demande pas de mettre de côté notre sens critique, ni rien. Alors, quand il nous dit « ne jugez pas », de quoi parle-t-il? Eh bien, il y a des traductions de la Bible qui nous viennent en aide. Voilà. La TOB, par exemple, la traduction œcuménique de la Bible, traduit comme ceci, au lieu du verbe « ne jugez pas », il dit « ne vous posez pas en juge ». Ne prenez pas la position de juge, ne prenez pas le rôle de juge, un rôle qui ne vous appartient pas. Et puis la version du Semeur traduit tout simplement « juger » par « condamner ». Ne condamnez pas les autres et vous ne serez pas condamnés. Et ces traductions ont vu juste. Jésus nous demande de ne pas nous poser en juge de notre prochain, de ne pas prendre le rôle du juge qui condamne et qui prononce la sentence. Pour ce verbe condamner, il y a le petit Robert qui définit « faire subir une punition par un jugement ». Ce qui caractérise la condamnation, c'est son côté punitif, son côté définitif. La condamnation a été prononcée, on ne peut pas y revenir, le condamné ne peut pas s'en sortir. Condamné. Un peu comme les fenêtres d'une maison et les portes d'une maison abandonnée que l'on a, comme on dit, condamné. Là où il y avait des ouvertures, on ne voit que des murs de parpaings en béton. Toutes les ouvertures sont condamnées. Et c'est ce que nous faisons quand nous nous érigeons en juge de notre prochain et que nous le condamnons. Nous ne lui laissons aucune ouverture possible. Nous l'avons catalogué, étiqueté. Celui-là, il n'est pas fiable. Celle-là, elle n'est pas gentille. Et en quelque sorte, nous l'avons bétonné dans un défaut, nous l'avons figé comme une statue de Pompéi prise dans la lave de notre jugement. Juger, c'est se faire une idée négative sur quelqu'un et le condamner à le rester, à rester dans cette idée, sans lui donner aucune possibilité de changement, de recommencement, sans pardon, sans grâce. Se poser en juge, c'est condamner, prononcer une sentence, figer l'autre dans un jugement, coller une étiquette, voilà ce que c'est condamner, et c'est ce que Jésus condamne chez nous. Il y a Christophe Payat qui écrit « Juger, c'est refuser de vivre dans la sphère de la grâce. Ne pas juger, c'est s'habituer à percevoir la grâce de Dieu à l'œuvre dans la vie de l'autre. » Et puis Jésus va donner de bonnes raisons pour ne pas juger. Versets 1 et 2, « Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera, de la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. » Il y a comme un effet jugement. Vous avez remarqué le pronom personnel « on » qui n'est pas très personnel. Alors, qui est ce « on » ? Pour certains, comme dans la Bible « Parole de vie », ce « on » serait Dieu. Et ils traduisent « Ne jugez pas les autres et Dieu ne vous jugera pas. » En effet, Dieu vous jugera comme vous jugez les autres. Le « on » serait Dieu. On se trouverait un petit peu comme dans la parabole de Matthieu 18 sur le pardon. Je ne sais pas si vous vous rappelez, un homme où on voit un homme qui refuse de remettre une dette à son ami, une toute petite dette, alors que le maître vient de lui remettre à lui-même une énorme dette. Et la fin de l'histoire est radicale, puisque le maître, apprenant cela, va mettre ce serviteur qui refuse de pardonner en prison, alors qu'il vient juste d'être pardonné. Et la leçon de cette histoire, c'est que Dieu ne nous pardonne pas si nous ne pardonnons pas aux autres. C'est du sérieux, le pardon. Et ce n'est pas une remise en question du salut par la grâce seule, mais une façon de montrer toute l'importance d'une pratique, d'une vie qui serait conforme à la volonté et à la nature même de Dieu. Si Dieu pardonne, nous sommes appelés à pardonner à notre tour. Si Dieu ne condamne pas mon prochain, je suis appelé à ne pas le condamner non plus. Si le on est Dieu, il y a cet effet jugement. Si le on, ce sont les autres, Jésus nous dirait alors de faire attention à l'effet boomerang quand on juge les autres. Dans la communauté humaine, il y a cette loi naturelle, entre guillemets, où on pourrait presque parler de loi spirituelle, qui fait que tout ce qu'on y met dans cette communauté nous revient d'une manière ou d'une autre. Si nous donnons dans le jugement, il va nous revenir. On va être jugé. Si nous mettons une ambiance de jugement dans notre famille, dans notre groupe d'amis ou de collègues, dans notre église, eh bien cette ambiance va nous toucher également et on va se sentir jugé et on va être jugé à notre tour. J'ai vu cette image-là, comment juger en un clin d'œil. Je ne sais pas si ce livre existe vraiment, mais c'est comment juger en un clin d'œil et être jugé en un clin d'œil également. On ne veut pas mettre dans le milieu dans lequel on est une ambiance de jugement. Au contraire, on voudrait mettre une ambiance de grâce, de pardon, de gentillesse, de bienveillance, n'est-ce pas ? Et sans vouloir vous passer de la pommade, je crois que c'est ce que nous vivons dans cette église, l'Église évangélique libre de Cannes, de la bienveillance. Et le Seigneur nous appelle à continuer dans ce sens, à ne certainement pas mettre une ambiance de jugement. Et Jésus poursuit en nous donnant une autre raison pour laquelle il ne faut pas condamner. Et on revient à cette métaphore de la poutre et de la paille. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors que dans ton œil, il y a une poutre? Et on retrouve notre bonhomme. Et je ne sais pas si quand vous lisez ces phrases, quand vous lisez cette histoire de poutre et de paille, vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi c'est moi qui ai toujours la poutre et que l'autre a toujours la paille. On ne pourrait pas inverser les rôles, que moi j'ai la paille et que l'autre est la poutre. Mais non, on risque de vous contrarier, vous aurez toujours, et moi aussi, en lisant ou en écoutant ce récit, j'aurai toujours la poutre dans mon œil et l'autre la paille, d'abord parce que mon péché, mon problème, doit toujours m'apparaître comme plus important que le péché de l'autre. Ensuite, et peut-être parce que le problème imagé par la poutre n'est pas un problème... n'importe quel problème, c'est justement le problème de s'ériger en juge de son prochain. Cette poutre dans mon œil, c'est mon orgueil à jouer un rôle qui ne m'appartient pas. C'est pour ça que, à partir du moment où on condamne les autres, où on se place en juge des autres, on a automatiquement la poutre dans son œil. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. D'accord, merci. Et cette poutre, Jésus nous demande de l'enlever, tout simplement. Car cette poutre qu'il y a dans mon œil, c'est-à-dire cette habitude de juger les autres, non seulement nous enferme et nous isole dans notre tour d'ivoire, mais elle ne permet pas non plus d'aimer et d'aider les autres comme nous devrions le faire. Nous ne pouvons pas aider et aimer les autres quand nous avons cette poutre dans l'œil. Parce que si la poutre nous permet de voir les pailles, et même d'en voir peut-être là où il n'y en a pas, il y a une chose que la poutre ne permet pas, c'est de les enlever. Et Jésus insiste là-dessus. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Avec le bas-relief qui fait mal, qui est moche à voir, qui n'est pas joli du tout, mais il est parlant de la violence de celui qui a la poutre dans son œil là et qui essaye d'enlever la paille dans l'œil de l'autre. Et ce que Jésus nous dit ici, c'est que l'on ne peut aider personne en le condamnant. On n'aide pas son conjoint, on n'aide pas ses enfants, on n'aide pas son église, on n'aide pas ses amis, on n'aide pas ses collègues de bureau si on se pose en juge de leur vie et de leurs actions. Ce serait de l'hypocrisie ou de la comédie de penser le contraire, de prétendre apporter de l'aide tout en condamnant la personne. Pour aider véritablement, pour faire la différence dans ce monde rempli de paille, il faut d'abord enlever la poutre. Et il faut nous le faire dans la prière et dans la repentance. Seigneur, pardonne-moi de juger mon prochain. Seigneur, enlève de ma vie cet esprit de jugement. Viens enlever la poutre de mon œil. Et il le fera si nous confessons notre faute. Et notre poutre, il nous pardonne. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout le mal que nous avons commis. Oui, nous avons besoin de repentance. C'est un mot que l'on utilise rarement, mais nous avons besoin de repentance, nous qui nous posons en juge de notre prochain. Mais encore une fois, les paroles de Jésus ne sont pas une invitation à ne plus rien discerner, à rester indifférent à tout ce qui se passe autour de nous. J'ai une poutre à terminer, je ne m'occupe plus des pailles de votre vie. Non, Jésus s'adresse à une communauté de gens qui vont vivre ensemble dans le royaume, qui sont solidaires les uns des autres, qui sont appelés à marcher ensemble, à grandir ensemble, à discerner ensemble les pailles dans la vie des uns et des autres. Et Jésus nous dit, si tu enlèves ta poutre, alors tu verras comment il faut faire pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin. Comment tu pourras lui venir en aide? Ce n'est pas par hasard, me semble-t-il, que Jésus utilise l'image de l'œil. Les chirurgiens ophtalmologues vous le diront, l'œil est un organe extrêmement sensible et complexe. J'ai vu, quand j'étais stagiaire kiné, j'ai vu en live des opérations de prothèse totale de la hanche. Après le bistouri électrique, on y allait au marteau et au burin et à la scie pour couper le col du fémur. J'ai été très impressionné quand j'ai vu ça. Ce ne sont pas des instruments indiqués quand on travaille au niveau de l'œil. Au niveau de l'œil, on prend d'infinies précautions, on travaille avec douceur, avec précision, on prend des pincettes ou des micro-pincettes même. De même, quand il s'agit de la paille dans l'œil de mon prochain, d'un problème dans la vie de l'autre, le disciple de Jésus-Christ débarrassé de sa poutre, c'est-à-dire de tout esprit de jugement, prendra d'infinies précautions quand il s'agit d'entrer un tant soit peu dans la vie de l'autre. J'y rentrerai avec sa permission d'ailleurs, avec beaucoup de doigté, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de grâce encore une fois. Ce n'est qu'avec de telles précautions que l'on pourra véritablement aider, encourager sans blesser, corriger sans décourager, discerner sans condamner, de la douceur, de l'amour, de la grâce, quand il s'agit d'enlever la paille de l'œil de son prochain. Et nous avons, le défi semble être de taille, mais nous avons un exemple magnifique en la personne de Jésus. Jésus qui est venu sur terre, du ciel sur la terre, qui s'est approché des hommes et des femmes qui vivaient des vies compliquées, des vies soumises au mal. Et Jésus a discerné, il a vu les pailles, il a vu les failles, il a vu les fêlures, il a vu les brisures de notre vie. Et il a mis, il a su les discerner, il a mis nos problèmes à nu, il a mis parfois le doigt là où ça faisait mal. Et pourtant, il peut dire, je ne suis pas venu condamner le monde, mais le sauver. Et il peut le dire tout en gardant sa crédibilité, en raison du capital d'amour infini qu'il a pour ces hommes et ces femmes si fragiles. Un amour qui le mène jusqu'à la croix. Parce que Jésus n'est pas resté enseignant sur la colline, dans son séminaire, mais il a gravi la colline du mont Golgotha, et là, il a fait la différence pour l'éternité. Il a discerné nos actes manqués, nos manquements, et il s'est donné à la croix, justement pour que nous ne soyons pas fixés dans notre statut de pécheur, condamnés à le rester. Jésus a fait fort sur la croix. Il y a Paul qui dit dans Romains 8, « Qui nous condamnera ? Jésus-Christ est mort. » Bien plus, il est ressuscité. Il n'y a plus de condamnation. Jésus, oui, discerne, mais ne condamne pas. Il n'enferme personne dans la condamnation, mais il laisse ouvert sur le pardon, sur l'espérance, sur le salut, sur la grâce. Il est fort, Jésus. Et que son exemple nous donne de vivre nos relations sans jugement, sans condamnation, mais sous la grâce. La grâce seule. Amen. Et je vous invite à chanter dans la repentance. Pardon Seigneur, pardon d'avoir jugé, pardon d'avoir condamné, pardon d'avoir blessé, d'avoir critiqué. Oui, une prière de repentance, car nous nous mettons souvent, il faut le reconnaître, dans le rôle du juge.
Pardon, pardon d'avoir jugé. Pardon, pardon d'avoir condamné. Pardon, pardon d'avoir blessé. Pardon, pardon d'avoir critiqué. C'est vrai, mon cœur est tortueux. C'est vrai. Il est dur et orgueilleux, et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à l'aimer. Pardon de mépriser mes frères. Pardon de rester là sans rien faire. Pardon. Pardon, oh viens purifier ma vie, c'est vrai. changé. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Tu nous as donné ta vie, tu as donné ton esprit pour que l'on soit tes témoins. Tu as dit c'est par l'amour que le monde qui nous entoure verra que tu es vivant. Nous serons transformés, Seigneur, établis l'unité. C'est vrai, mais toi tu as payé. C'est vrai, mais toi tu as tout changé. Et par toi, nous serons transformés, Seigneur, établis l'unité.